Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour.
Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter un célèbre écrivain américain, Truman Capote.
Bien dit.
Alors j'ai entendu en fait les Anglais et les Américains ils disent plutôt Capote.
Capote.
Voilà, voilà. Mais bon, nous en France, on dit Truman Capote.
Oui, hein, ça voilà. Nous fait plus rire.
Donc de son naissance, Truman Streckfus Persons. Capote, eh bien, c'est le nom de son beau-père hein,
oui.
qui prendra par la suite.
Exactement, et Streckfus, c'était le nom de l'employeur de son père, d'origine, si je puis dire.
Voilà.
Alors, bizarre, déjà ça démarrait dur.
Pas facile de s'y retrouver pour lui. Alors il est né en septembre 1924 à la Nouvelle-Orléans, et il est décédé en août 1984, donc 60 ans plus tard, à Los Angeles. Alors, il est l'auteur hein, de romans, de nombreuses nouvelles, de reportages, portraits, des récits de voyage aussi, souvenirs d'enfance, ainsi que de deux adaptations théâtrales de ses écrits antérieurs et de deux scénarios de films. Alors, il a été élevé à Monroeville, en Alabama, par ses trois cousines et leurs frères, qui étaient tous quatre célibataires. Donc, à Monroeville, il a pour ami d'enfance Harper Lee, qui le décrira dans son roman « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur », qui d'ailleurs sera adapté au cinéma sous le titre « Du silence et des ombres ». Et il est dépeint comme un Merlin enchanteur de poche sous les traits du personnage de Dill.
Oui, et c'est Gregory Peck qui joue dans le film.
Quoi.
Oui. Excusez du peu.
Bah oui, oui, oui. Donc très vite dans le voisinage, on s'aperçoit qu'il est bien différent. Voilà, il est petit, efféminé, maniéré. Et surtout dotée d'une voix au perché qui gardera toute sa vie quand même.
Une voix de ténor peut-être.
Voilà, c'est ça, je ne sais pas. Et donc avant de pouvoir vivre de sa plume, il sera danseur sur un bateau de plaisance, puis peintre. Mais il fait rapidement partie avec son ami et rival Carson McCullers, dont vous a déjà parlé dans une émission précédente. Des vedettes, des wonderkinder littéraires.
Des enfants prodiges.
Voilà, arrivés de leur sud natal à la conquête de New York. Donc, entre 1941 et 45, il va travailler comme pigiste au New Yorker. Et donc, sa première nouvelle, intitulée « Les murs sont froids », et va être publiée en 1943. Et l'année suivante, paraissent les nouvelles « Un vison à soi », et le contour des choses. En 45, il va louer une chambre d'hôtel à la Nouvelle-Orléans et il va commencer à écrire les domaines hantés, renouant avec la nature, les paysages et certains personnages de son enfance.
Oui, il n'avait que 21 ans, une vie déjà dense.
Et donc à la même époque, en fait, est publiée Myriam, donc une nouvelle qui paraît dans le magazine Mademoiselle, qui est avec Bazar les deux magazines qui publient ces nouvelles. Le New Yorker les jugeant trop audacieuses. Alors, je vous propose d'écouter cette nouvelle, Myriam, qui est lue par Sophie et moi-même. Voilà. Alors, bonne écoute.
Depuis plusieurs années, Mrs. Miller occupait seule un agréable appartement, deux pièces et une petite cuisine, dans une vieille maison modernisée près de East River. Elle était veuve. Mr. Miller lui avait laissé une assurance très convenable. Peu de choses l'intéressaient. Elle n'avait pour ainsi dire pas d'amis et elle ne s'aventurait guère au-delà de l'épicerie du coin. Les autres locataires de la maison ne semblaient jamais la remarquer. Elle s'habillait d'une façon quelconque. Elle avait des cheveux gris, coupés courts et ondulés un peu au hasard. Elle ne se fardait point et avec son visage banal, elle passait complètement inaperçue. Elle venait d'entrer dans sa 62e année. Ses actes manquaient le plus souvent de spontanéité. Ses deux pièces étaient immaculées. À l'occasion, elle fumait une cigarette. Elle préparait elle-même ses repas et s'occupait avec tendresse d'un canari. Et puis, elle rencontra Myriam. Il neigeait ce soir-là. Mrs. Miller, après avoir essuyé sa vaisselle, feuilletait un journal, édition de midi, quand ses yeux tombèrent sur l'annonce d'un film qui passait dans un cinéma du quartier. Le titre était alléchant. Elle mit péniblement son manteau de castor, laça ses bottes et sortit de l'appartement en y laissant la lampe du vestibule allumée. Rien ne lui était plus désagréable que la sensation d'obscurité. La neige tombait, calme et fine, sans laisser encore de traces sur les pavés. Le vent qui soufflait de la rivière ne coupait le visage qu'au tournant des rues. Mrs. Miller se hâtait, tête baissée, aussi absorbée qu'une taupe creusant ses tunnels aveugles. Elle s'arrêta à un drugstore, acheta des pastilles de menthe. On faisait la queue devant le guichet des billets. Mrs. Miller se mit tout debout. Une voix fatiguée annonça qu'il faudrait attendre un peu, car la salle était comble. Mrs. Miller fouilla dans son sac de cuir jusqu'à ce qu'elle eût trouvé la somme exacte dont elle avait besoin pour payer sa place. La queue n'avançait guère, et comme elle regardait autour d'elle pour s'occuper, elle remarqua soudain une petite fille debout sur la marquise. Mrs. Miller n'avait jamais vu de cheveux aussi longs, aussi étranges. Ils étaient blancs d'argent, comme des cheveux d'albinos. Ils descendaient en longues lignes soyeuses jusqu'à la taille de l'enfant. Elle était mince, frêle. Dans sa façon de se tenir, les mains dans les poches de sa veste en velours prude, il y avait une élégance toute simple et très particulière. Il neigea toute la semaine. Les roues et les pas circulaient sans bruit dans la rue, comme si l'agitation de la vie continuait secrètement derrière un rideau pâle, mais impénétrable. Dans la descente de cette paix, il n'y avait ni ciel ni terre, rien que la neige que le vent fouettait, de la neige qui givrait les fenêtres, glaçait les chambres, étouffait, atténuait les bruits de la ville. Il fallait laisser les lampes allumées à toute heure et Mrs. Miller perdit la notion du temps. Le vendredi fut comme le samedi et le dimanche, elle alla à l'épicerie qu'elle trouva fermée naturellement. Ce soir-là, elle se fit des œufs brouillés et de la soupe à la tomate. Puis, après avoir revêtu sa robe de chambre en flanelle et s'être enduit le visage de cold cream, elle s'assit dans son lit, bien calée sur les oreillers, une boule d'eau chaude aux pieds. Elle lisait le Times quand le timbre de la porte sonna. Tout d'abord, elle crut que c'était une erreur et que la personne s'en irait. Mais le timbre se remit à sonner, sonner, sans arrêt. Elle regarda la pendule. Il était un peu plus de 11h. C'était à peine croyable, elle qui était toujours endormie vers 10h. Elle se leva et traversa pieds nus le salon. « J'arrive, un peu de patience !» La serrure était brouillée. Elle essayait d'un côté, de l'autre, et le timbre n'arrêtait pas. « Assez !» Le verrou céda et elle entr'ouvrit la porte de quelques centimètres. « Comment ? Ça, par exemple ?»«
Bonjour !»«
Oh, bonjour vous êtes la petite fille ?»«
Je pensais que vous ne vous décideriez jamais à ouvrir, mais j'ai gardé le doigt sur le bouton. Je savais que vous étiez chez vous. Vous n'êtes pas contente de me voir ?»
Mrs. Miller ne savait que dire. Elle vit que Myriam portait le même paletot en velours prune, mais elle avait en plus un béret pour compléter l'ensemble. Ses cheveux formaient deux tresses brillantes que nouaient, au bout, d'énormes rubans blancs.
« Après m'avoir fait attendre si longtemps, vous pourriez tout de moins m'inviter à entrer. »«
C'est qu'il est bien tard. » Myriam la regarda d'un air étonné.
« Qu'est-ce que ça fait ? Laissez-moi entrer, il fait froid ici et j'ai une robe de soie. »
Puis d'un geste simple, elle écarta Mrs. Miller et entra dans l'appartement. Elle laissa tomber son paletot et son béret sur une chaise. En effet, elle portait une robe de soie blanche. Soie blanche en février. La jupe était merveilleusement plissée et les manches étaient longues. Le tout bruissait doucement quand elle marchait dans la chambre.
« J'aime beaucoup votre appartement. J'aime le tapis. Le bleu est ma couleur favorite. »
Elle toucha une rose en papier dans un vase sur une petite table.
« Artificiel ?» Que c'est triste. Vous ne trouvez pas que tout ce qui est artificiel est triste ?
Elle s'assit sur le divan et étala soigneusement sa jupe. Que voulez-vous ?
Asseyez-vous donc. Rien ne m'énerve comme de voir les gens rester debout.
Mrs. Muller s'effondra sur un pouf. Que voulez-vous ?
J'ai l'impression que vous n'êtes pas très contente de me voir.
Pour la seconde fois, Mrs. Miller ne sut que répondre. Sa main fit un geste vague. Myriam, en riant doucement, se blottit contre un tas de coussins en chintz. Mrs. Miller remarqua que la petite fille était moins pâle qu'elle ne le se figurait. Elle avait les joues en feu. « Comment avez-vous trouvé mon adresse ?»«
En voilà une question. Comment vous appelez-vous ? Et moi ? Comment est-ce que je m'appelle ?»«
Mais je ne suis pas dans l'annuaire du téléphone. » »«
Oh, parlons d'autre chose. »
Il faut que votre mère soit folle pour laisser une enfant de votre âge se promener comme ça à toutes les heures de la nuit. Et dans cette toilette ridicule, elle doit avoir complètement perdu la tête. Myriam se leva et alla dans le coin de la chambre où une cage recouverte d'un morceau d'étoffe pendait à la chaîne. Elle souleva le drap.
« C'est un serin. Ça vous ennuierait si je le réveillais ? Je voudrais l'entendre chanter. »
« Laissez Tommy tranquille. Ne vous avisez pas de le réveiller. »
« Non, certainement. Mais je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas l'entendre chanter. » Vous n'auriez pas quelque chose à me donner à manger ? J'ai une faim de loup. Rien qu'un peu de lait, une tartine de confiture, ça serait parfait.
Écoutez, si je vous fais de bonnes petites tartines, est-ce que vous rentrerez chez vous comme une gentille petite fille ? Je suis sûre qu'il est plus de minuit.
Il neige, il fait froid et noir.
Pour commencer, vous n'auriez pas dû venir ici. C'est tout de même pas ma faute s'il fait mauvais. Si vous voulez que je vous donne quelque chose à manger, il faut que vous me promettiez de partir. Myriam écarta une de ses tresses qui lui frôlait le visage. Elle avait un regard pensif, comme si elle réfléchissait à la proposition. Elle se tourna vers l'arcage d'oiseaux.
« Très bien, je promets. »
Quel âge avait-elle ? 10 ans ? 11 ans ? Mrs. Miller, dans la cuisine, ouvrit un pot de confiture de fraises et coupa 4 tartines de pain. Elle emplit un verre de lait et s'arrêta pour allumer une cigarette. Et pourquoi est-elle venue ? Fascinée, elle tenait l'allumette d'une main tremblante et finit par se brûler le doigt. Le canari chantait. Il chantait comme il chantait tous les matins, mais jamais à un autre moment de la journée. « Myriam ! Myriam ! Je vous avais dit de ne pas déranger Tommy !» Elle n'obtint pas de réponse. Elle appela de nouveau. Elle n'entendait que le canari. Elle aspirait une bouffée de tabac et s'aperçut qu'elle avait allumé l'extrémité en liège de la cigarette. Et... « Allons, du calme. Il lui fallait maîtriser ses nerfs. » Elle apporta la collation sur un plateau qu'elle posa sur la table de thé. Elle vit tout de suite que la cage était toujours recouverte de sa housse. Et Tommy chantait. L'impression qu'elle en ressentit était étrange. Et il n'y avait personne dans la pièce. Mrs. Miller se dirigea vers une alcôve qui menait à sa chambre. Sur le pas de la porte, elle resta suffoquée. « Qu'est-ce que vous faites ?» Myriam leva les yeux. Son regard avait quelque chose d'extraordinaire. Elle était debout près de la commode, un coffret à bijoux ouvert devant elle. Pendant un instant, elle observa Mrs. Miller, l'obligea à la regarder. Alors elle sourit.
« Tout ça ne vaut pas grand-chose, mais j'aime ceci. Cette broche en camé, c'est charmant.
Je crois qu'il serait préférable que vous remettiez ce bijou à sa place. » Elle s'adossa au chambranle de la porte, elle se sentait la tête effroyablement lourde et l'angoisse pesait sur les pulsations de son cœur. La lumière semblait vaciller. « Je vous en prie, mon enfant, c'est un cadeau de mon mari. »«
Mais c'est très joli et je le veux. Donnez-le-moi. »
Tout en cherchant une phrase qui pût sauver sa broche, Mrs. Miller se rendit soudain compte qu'elle n'avait personne pour lui venir en aide. Elle était seule. Il y avait longtemps que cette pensée ne l'avait pas effleurée. Elle la frappait maintenant avec une terrible intensité. Dans sa propre chambre, dans une ville muette sous la neige, il y avait des évidences qu'elle ne pouvait pas ne pas voir et auxquelles, elle s'en rendait compte avec une clarté stupéfiante, elle ne pouvait résister. Myriam mangeait voracement. Quand elle eut fini son lait et ses tartines, elle fit avec ses doigts sur le fond de l'assiette des mouvements d'araignée pour ramasser les miettes. Le camé étincelait sur son corsage. Le blond profil qui s'y dessinait semblait le reflet de celle qui le portait.
« C'est très bon. Mais maintenant, un gâteau aux amandes ou une cerise serait l'idéal. J'aime beaucoup les friandises. Pas vous ?»
Assise sur le bord du pouf, Mrs. Miller fumait une cigarette. Sa résille lui avait glissé sur l'oreille et des mèches folles pendaient sur sa figure. D'un air stupide, elle regardait fixement dans le vague et ses joues étaient marbrées de rouge. Comme si un soufflet vigoureux lui avait laissé une trace indélébile.
« Vous n'auriez pas un bonbon, un gâteau ?»
Mrs. Miller laissa tomber des cendres sur le tapis. Sa tête vacillait un peu tandis qu'elle essayait de stabiliser son regard. « Vous avez promis de partir si je vous donnais des tartines. »«
Ah mon Dieu, est-ce vrai ?»«
C'était une promesse et je suis fatiguée et je ne me sens pas bien du tout. » »«
Ne vous inquiétez pas, c'était pour rire. »
Elle prit son paletot, le jeta sur son bras et mit son béret devant le miroir. Elle se pencha alors vers Mrs. Miller et murmura.
« Embrassez-moi. »«
Non, je vous en prie, je préfère... » Myriam haussa les épaules, leva un sourcil.
« Comme vous voudrez. »
Puis, allant droit à la table à thé, elle saisit le vase de roses artificielles, le porta à un endroit où la surface du plancher était dure et nue et le laissa tomber violemment. Des éclats de verre volèrent de tous côtés. D'un coup de pied, elle écrasa le bouquet. Ensuite, elle se dirigea vers la porte, mais avant de la refermer, elle se retourna vers Mrs. Miller et la regarda avec une sorte de curiosité innocente et perverse. Mrs. Miller passa toute la journée du lendemain au lit. Elle ne se leva que pour donner à manger à son canari et pour boire une tasse de thé. Elle prit sa température. Elle était normale, et pourtant ses rêves étaient fiévreusement agités. Il s'attardait, désordonné et fou, même lorsque, étendue sur le dos, elle contemplait le plafond avec de grands yeux fixes. Un rêve passait parmi les autres, ainsi qu'un thème furtif et mystérieux, dans une symphonie compliquée, et les scènes qu'il évoquait avaient des contours précis, comme tracés par une main experte dans la fermeté du trait. Une petite fille vêtue d'une robe de mariée et couronnée d'une guirlande de feuilles descendait en tête d'une procession grise un chemin de montagne. Un silence étrange régnait, quand soudain une femme, en queue de la file, demanda « Où nous conduit-elle » « Personne ne le sait, » dit un vieillard qui marchait au premier rang. « Mais n'est-ce pas qu'elle est jolie ?» hasarda un troisième. « N'est-ce pas qu'on dirait une fleur de givre, si blanche, si étincelante ?» Le mardi matin, quand elle se réveilla, Mrs. Miller se sentit mieux. Le soleil, qui glissait en lamelles incisives à travers les jalousies, noyait dans sa lumière les visions malsaines. Elle ouvrit la fenêtre et s'aperçut que le jour avait la tiédeur du printemps et qu'il dégelait. Une traînée de nuages nouveaux, bien propres, se pressait contre un vaste bleu ciel hors de saison. Par-delà la ligne basse des toits, elle apercevait la rivière et la fumée d'un remorqueur qui montait en volute dans la brise tiède. Dans un grand bourdonnement de moteur, un grand camion d'argent labourait la rue bordée d'un tas de neige. Après avoir fait son ménage, Mrs. Miller se rendit chez l'épicier, toucha un chèque et s'achemina vers un restaurant Schraft où elle prit son petit déjeuner en causant gaiement avec la serveuse. Oh, quelle merveilleuse journée! Un vrai jour de vacances! Ce serait ridicule de rentrer chez soi. Elle prit un autobus à Lexington Avenue et remonta jusqu'à la 66e rue. C'est là qu'elle avait décidé de faire quelques emplettes. Elle n'avait pas la moindre idée de ce qu'elle voulait ou de ce dont elle pouvait avoir besoin, mais elle flânait, intéressée seulement par les passants rapides et absorbés qui lui donnaient une sensation troublante de solitude. C'est tandis qu'elle attendait au coin de la 3e avenue qu'elle vit l'homme, un vieillard bancal, courbé sur une brassée de gros baquets. Il portait un veston usagé et une casquette à carreaux. Brusquement, elle s'aperçut qu'ils échangeaient des sourires. Il n'y avait rien d'amical dans ces sourires, simplement deux froids éclairs de reconnaissance. Mais elle était certaine qu'elle ne l'avait jamais vu de sa vie. Il était debout près d'un des piliers du tramway aérien et comme elle traversait la rue, il fit demi-tour et la suivit. Il resta tout près d'elle. Du coin de l'œil, elle suivait son reflet mouvant dans les vitrines. Puis, entre deux rues, elle s'arrêta, le regarda bien en face. Il s'arrêta aussi et pencha la tête en souriant. Mais que pouvait-elle dire ou faire ? Là, en plein jour, dans la 66e rue, il n'y avait rien à faire. Et honteuse de son impuissance, elle hâta le pas. Il faut avouer que la 2e avenue est une rue déprimante, faite de pièces et de morceaux. Ici des pavés, là de l'asphalte, un peu plus loin du ciment. Et son air d'abandon est permanent. Mrs. Miller traversa 5 rues sans rencontrer personne. Et tout le temps, le chuintement régulier des pas sur la neige de la talonnait. Et quand il arriva devant la boutique d'un fleuriste, le son l'accompagnait toujours. Elle se hâta d'entrer et à travers la porte vitrée, elle regarda passer le vieillard. Il passa sans ralentir le pas, le regard fixé droit devant lui, et pourtant il fit un geste étrange, révélateur. Il porta la main à sa casquette. Pardon, vous avez dit six blanches ? Demanda la fleuriste. Oui, dit-elle, des roses blanches. De là, elle se rendit dans un magasin de verrerie et choisit un vase, sans doute pour remplacer celui que Myriam avait cassé. Et cependant, le prix en était scandaleux et le vase lui-même, pensa-t-elle, grotesquement vulgaire. Mais toute une série d'achats inattendus venait de commencer, comme d'après un plan préconçu, plan dont elle n'avait pas la moindre notion et qu'elle ne pouvait contrôler. Elle acheta une poche de cerises confites et dans une boulangerie appelée Knickerbocker, elle paya 6 gâteaux aux amandes, 40 cents. Depuis une heure, le temps s'était remis au froid. Des nuages d'hiver, tels des vers dépolis, jetaient une ombre sur le soleil et une ébauche de crépuscule colorait le ciel. Une brume humide mêlée au vent et aux voix de quelques enfants qui jouaient, perchés sur des montagnes de neige, semblait triste et solitaire. Bientôt, le premier flocon apparut et quand Mrs. Muller atteignit sa maison en pierre brune, la neige tombait comme un rideau rapide. À peine formée, les empreintes de pas disparaissaient. Des roses blanches furent arrangées artistiquement dans un vase. Les cerises confites brillèrent sur une assiette de céramique. Les gâteaux aux amandes saupoudrés de sucre n'attendaient plus qu'une main. Le canari battait des ailes et picorait des graines. À 5 heures précises, le timbre de la porte sonna. Mrs. Muller savait qui c'était. L'ourlet de sa robe d'intérieur traîna par terre quand elle traversa la chambre. « Est-ce vous ?»«
Naturellement. »
Le mot sur le palier avait un ton perçant.
« Ouvrez cette porte. »«
Allez-vous-en. »«
Dépêchez-vous, je vous en prie. J'ai un paquet très lourd. »«
Allez-vous-en. » Elle revint dans le salon, alluma une cigarette, s'assit et calmement écouta la sonnette. Elle vibrait sans une seconde d'arrêt. « Vous feriez bien de partir, je n'ai nullement l'intention de vous laisser entrer. » Peu après, la sonnette s'arrêta. Pendant environ 10 minutes, Mrs. Muller ne bougea pas. Puis, n'entendant plus rien, elle conclut que Myriam était partie. Elle alla sur la pointe des pieds jusqu'à la porte qu'elle entrebâilla à peine. Myriam, une magnifique poupée française dans les bras, était à demi étendue sur une boîte en carton.
« Vraiment, je commençais à croire que vous ne viendriez jamais. » « Allez, aidez-moi à porter ça, c'est très lourd. »
Ce que Mrs. Muller ressentit était bien moins l'impulsion de quelqu'un à qui on a jeté un sort qu'une curiosité passive. Elle prit le carton et Myriam porta la poupée. Myriam se blottit sur le sofa sans même prendre la peine d'enlever son paletot et son béret. D'un air indifférent, elle regardait Mrs. Muller qui, debout, tremblante, essayait de reprendre haleine après s'être débarrassée de la boîte.
« Merci. »
À la lumière du jour, elle avait l'air fatiguée, les traits tirés. Ses cheveux avaient perdu leur luminosité. La poupée française qu'elle cajolait portait une exquise perruque poudrée et ses yeux de verre au regard idiot cherchaient à se poser sur ceux de Myriam.
« J'ai une surprise. Regardez dans le carton. »
Mrs. Muller s'achenouilla, souleva le couvercle et sortit une autre poupée. Puis, le costume bleu qu'elle se rappelait avoir vu sur Myriam le soir où, pour la première fois, elle l'avait rencontrée au cinéma. Quant au reste, elle dit « Bah, il n'y a que du linge, pourquoi ?»«
Parce que je viens habiter avec vous, que vous êtes gentille de m'avoir acheté des cerises. »«
Mais c'est impossible, pour l'amour de Dieu, partez, allez-vous-en et laissez-moi en paix. »«
Et les roses et les gâteaux aux amandes, vous êtes trop généreuse, vraiment. Vous savez, ces cerises sont délicieuses. La dernière personne chez qui j'ai habité était un vieux monsieur. Il était très pauvre et nous n'avions jamais rien de bon à manger. Mais je crois qu'ici, je serai très heureuse. »
Elle s'arrêta pour presser sa poupée.
« Maintenant, si vous voulez bien me montrer où je puis ranger mes affaires. »
Le visage de Mrs. Muller se décomposa en un masque de vilaine ligne rouge. Elle se mit à pleurer, mais d'une manière anormale, sans larmes, comme si, n'ayant pas pleuré depuis longtemps, elle ne savait plus comment faire. Prudemment, elle recula, petit à petit, jusqu'à toucher la porte. Elle traversa l'antichambre à tâtons et descendit un étage. Elle frappa comme une folle à la porte du premier appartement qui se présenta devant elle. Un petit homme roux ouvrit. Elle l'écarta d'une bourrade et entra. « En voilà des manières, » dit-il. « Qu'est-ce qu'il y a de cassé, mon trésor ?» demanda une jeune femme qui apparut à la porte de la cuisine en essuyant les mains. C'est vers elle que se tourna Mrs. Muller. « Écoutez, » cria-t-elle, « j'ai vraiment honte de me conduire ainsi, mais voilà, je suis Mrs. Muller et j'habite à l'étage au-dessus. » Elle cacha le visage dans ses mains. Ça a l'air absurde. La femme la vit asseoir sur une chaise, tandis que l'homme, nerveusement, faisait tinter l'argent qu'il avait dans sa poche. Alors, j'habite à l'étage au-dessus et il y a une petite fille qui est venue me voir. Et je dois l'admettre qu'elle me fait peur. Elle ne veut pas s'en aller et je ne peux pas l'y forcer. Et elle va faire quelque chose d'horrible. Elle m'a déjà volé mon camé, mais elle est sur le point de faire quelque chose de pire, quelque chose d'épouvantable. L'homme demanda, « C'est une de vos parentes ?» Mrs. Muller secoua la tête. « Je ne sais pas qui c'est, elle s'appelle Myriam, mais je ne sais pas exactement qui c'est. » « Faut vous calmer, ma petite dame, » dit la femme en caressant le bras de Mrs. Muller. « Harry va s'occuper de la gosse. Allons, va, trésor. » Et Mrs. Muller dit, « La porte est ouverte. Appartement 5A. » Quand l'homme fut parti, la femme apporta une serviette et baigna le visage de Mrs. Muller. « Vous êtes bien bonne, » dit Mrs. Muller. « Je suis désolée de me conduire ainsi, comme une sotte. Mais cet affreux enfant... »« Mais oui, » dit la femme pour la consoler. « Calmez-vous, voyons. » Mrs. Muller posa la tête sur son bras replié. Elle resta si tranquille qu'on eût pu la croire endormie. La femme ouvrit la radio. Un piano et une voix rauque emplirent le silence. Et la femme, frappant du pied, battait très exactement la mesure. « Nous ferions peut-être bien de monter aussi, » dit-elle. « Je ne veux pas la revoir. Je ne veux même pas m'approcher d'elle. Vous ne savez pas ce que vous auriez dû faire. Vous auriez dû appeler un flic. » Bientôt, elles entendirent les pas de l'homme dans l'escalier. Il entra dans la chambre, les sourcils froncés, en se grattant la nuque. « Il n'y a personne, » dit-il, sincèrement embarrassé. « Elle doit avoir foutu le camp. »« Harry, tu en as de bonnes, » dit la femme. « Nous n'avons pas bougé d'ici. Et nous aurions bien vu... » Elle s'arrêta brusquement devant le regard aigu de l'homme. « J'ai regardé partout, » dit-il. « Il n'y a personne. »« Personne, vous entendez bien ?»« Dites-moi, » dit Mrs. Miller en se levant. « Dites-moi, avez-vous vu un grand carton et une poupée ?»« Non, madame, j'ai rien vu. » Et la femme, en guise de conclusion, prononça « Pas ça, par exemple. » Mrs. Miller rentra chez elle sans faire de bruit. Elle alla jusqu'au beau milieu de la pièce et resta debout sans bouger. Non, en apparence, rien n'avait changé. Les roses, les gâteaux, les cerises étaient à leur place. Mais c'était une chambre vide, plus vide que si les meubles, les objets familiers n'avaient pas été là. Une chambre sans vie, pétrifiée, comme un dépositoire. Le sofa devant elle avait quelque chose d'étrange, vide, sans personne dessus. Il prenait un sens plus pénétrant, plus terrible, que si Myriam eût été blottie. Mrs. Muller regarda fixement l'endroit où elle se rappelait avoir posé le carton, et le pouf, et se mit à tournoyer éperdument. Elle regarda par la fenêtre. Sûrement la rivière était réelle, sûrement la neige tourbillonnait. Mais comment être sûre de rien ? Myriam, si clairement là, et pourtant, où était-elle ? Où ? Où ? Comme en rêve, elle se laissa tomber sur une chaise. La chambre perdait sa forme. Il faisait noir et l'obscurité augmentait sans cesse. Et elle n'y pouvait rien. Elle ne pouvait pas se lever, lever la main pour allumer la lampe. Soudain, fermant les yeux, elle se sentit soulevée, comme un plongeur qui remonte d'abîmes plus verts, plus profonds. Dans les instants de terreur ou dans une immense détresse, il arrive que l'esprit attende comme une révélation, tandis qu'un voile de calme se tisse sur la pensée. C'est une espèce de sommeil ou de transe surnaturelle. Et pendant cette accalmie, on est conscient du pouvoir de raisonner de sang-froid. Au fait, avait-elle jamais connu une petite fille du nom de Myriam ? Si elle avait tout simplement eu peur, dans la rue, après tout, comme toute chose, cela n'avait guère d'importance. Myriam ne lui avait dérobé que son identité, mais maintenant, elle savait qu'elle avait retrouvé la personne qui habitait dans cette chambre, qui faisait elle-même sa cuisine, qui possédait un canari, qui était quelqu'un en qui elle pouvait croire, avoir confiance, Mrs. Miller. Elle tendait l'oreille, toute heureuse. Et voilà qu'elle entendit un double bruit, un tiroir de commode qu'on ouvrait et refermait. Il lui sembla l'entendre encore longtemps après qu'il eût cessé. Ouvert, fermé. Puis, peu à peu, la dureté de ce bruit céda la place à un frôlement de soie. Et ce murmure ténu, à peine perceptible, s'approchait, enflait jusqu'à faire vibrer les murs sous ses ondes, jusqu'à faire chavirer la chambre sous une vague de bruissement. Mrs. Miller se raidit. Les yeux grands ouverts, hagards, elle fixait un point, droit devant elle.
« Bonjour !»
Voilà, j'espère que ça vous a donné des frissons.
Un petit côté Maupassant,
voilà,
peut-être.
Voilà, c'est ça. Hein, de... Donc, cette nouvelle, qui s'appelle Myriam, elle est extraite du recueil de nouvelles « Un arbre de nuit et autre histoire ». Donc, bah, si vous avez l'occasion de lire, il y a pas mal de nouvelles, en fait, qui ont un côté comme ça un peu fantastique, quoi. Hein,
oui, c'est bien, ce côté rêve, réalité, on ne sait pas.
Bah, ouais, c'est ça, on est dans l'entre-deux.
Dans un entre-deux, exactement.
Donc, le premier roman de Truman Capote, Les Domaines Hantés, va paraître en 1948 et remporte un succès immédiat. L'année suivante, il va publier un recueil de contes, donc Un arbre de nuit, dans lequel donc, on va ajouter cette histoire de Myriam. Et puis vont suivre Local Color, L'Harpe d'herbe, Les Muses en parlent, et bien sûr, le célèbre Petit déjeuner chez Tiffany, qui est paru en 1958, qui va consacrer donc, la première étape de la pensée et du style de Truman Capote. Ce bref roman de 120 pages connaît un grand succès et fait de son auteur un écrivain en vue chez ses pairs. Donc ce roman est le récit de la rencontre d'un écrivain débutant, le narrateur, avec sa voisine du dessous, une jeune femme déroutante et anticonformiste d'à peine 19 ans et d'un charme fou. Donc le style léger et ironique de Truman Capote sert merveilleusement ce récit doux amer où à la fin, l'héroïne affronte la vie, sort dans le monde, voyage, ayant réussi à se libérer de ses incertitudes et de son angoisse. Alors vous connaissez sûrement le film hein, dont a été tiré donc Diamant sur canapé, donc un film américain qui est réalisé par Black Edwards en 61 avec Audrey Hepburn et George Pepper comme voilà.
Et oui, on a même dit que ça pouvait être un autoportrait de Capote dans le personnage d'Audrey Hepburn. Parce que finalement, il y a plein de points communs.
Bah oui, oui.
Personnage voilà, un peu excentrique, qui flotte un peu. Et pour la petite histoire, Mireille, la robe fourreau signée Givenchy que porte Audrey Hepburn dans le film, et apparemment, il en existe 3 copies, dont une qui s'est vendue en 2006, 600 000 euros chez Christie's. Mmh. Et Givenchy a reversé l'argent pour aider des enfants de Calcutta. Ah. Voilà, tout ça c'est...
Bien, hein, bien, bien.
Correct.
Alors, Truman Capote va découvrir dans le New York Times, du 16 novembre 59, un fait divers qui tout de suite va le passionner. En fait, c'est un quadruple meurtre qui frappe une famille de fermiers du Kansas. Il pense qu'il pourra traiter ce fait divers sanglant sous une nouvelle forme littéraire et en faire un roman de non-fiction, qui permet également à l'auteur d'analyser ou de projeter sur les meurtriers les mobiles d'un crime que le lecteur est invité à vivre par procuration. Il va donc obtenir du New Yorker de partir à enquêter sur les lieux du drame à Holcomb. Et donc son ami d'enfance, Harper Lee, à qui il a demandé de l'accompagner, va faciliter beaucoup ses relations avec la population locale du Midwest et il va lui être d'une aide précieuse durant tout son travail de recherche.
C'est drôle, hein, c'est déjà une amie d'enfance, c'est une drôle de romancière qui n'a écrit qu'un roman et finalement elle l'a beaucoup aidé, je pense.
Bah, dans cette partie-là.
Et roman de non-fiction, c'est resté, hein. C'est lui qui a inventé un peu ce terme de genre de roman journalistique, un peu, quoi.
Bah oui, oui, hein, donc c'est...
Basé sur des faits réels, quoi. C'est nouveau.
Et donc, il va quand même passer plus de 5 ans à interroger d'innombrables témoins, à étudier les rapports de police, et après l'arrestation des 2 assassins, hein, Perry Smith et Richard Hickok, à les rencontrer en prison, grâce à la confiance d'Alvin Devey, le policier qui est chargé de l'enquête. Alors, voilà, le titre de l'ouvrage s'appelle « De sang-froid ». C'est un peu ambigu, hein, il fait à la fois référence à l'attitude des 2 assassins lors de cette nuit fatale, mais aussi à celle de la société qui les exécute.
Ben oui, parce que j'ai lu qu'il en est resté très affecté. Parce qu'en fait, il a eu une correspondance très longue avec notamment l'un des deux assassins avec lequel il s'est lié d'amitié. Et le fait qu'ils ont été exécutés en 65.
Et il a assisté à l'exécution, hein, quand même.
Donc celle-là, apparemment, malgré le succès qu'il va obtenir, ça l'a très nettement affecté. Hein.
Donc il y a un film qui a été fait sur les événements et un film qui a été fait sur toute la participation de Truman Capote à la manière dont il a procédé, quoi, voilà. Donc, alors, ce livre qui va se vendre à des millions d'exemplaires, plaire lui rapporte tout ce qu'il souhaitait, la fortune, la célébrité et une vie mondaine éclatante. Alors, il va organiser lui-même le 28 novembre 1966 un événement mondain légendaire, un bal masqué en noir et blanc à l'hôtel Plaza à New York, où se pressent quand même pas moins de 540 invités triés sur le volet.
Hein. Rien que ça.
Et donc à ce moment-là, il est au sommet de sa gloire, mais malheureusement, plus jamais il n'écrira un texte de cette ampleur.
Ben oui, c'est paradoxal parce qu'apparemment, il sombre après dans la dépression, l'alcoolisme, la drogue, et en invoquant principalement un manque d'inspiration, mais c'est peut-être à mettre en lien avec ce qu'on disait à l'instant,
cette espèce de
déprime suite à l'exécution des personnages dans lesquels il a dû se projeter, lui.
Ben oui, ça a été un moment très fort pour lui, c'était difficile de retomber sur ses pieds après, quoi. Donc, par contre, après, il a écrit, beaucoup d'autres nouvelles, des récits de voyage, des scénarios de films, qui n'ont pas eu beaucoup de succès non plus. Mais je vous propose du coup d'écouter un extrait de Portraits et impressions de voyage, donc qui rassemble un certain nombre de portraits d'artistes,
de souvenirs,
de souvenirs, etc. Et là, donc, il a écrit ce texte, Je me souviens de Tennessee, donc en 1983. Et donc, souvent, il était accompagné par le photographe, je n'ai pas noté son nom, c'est pas Richard Avedon. C'est lui. Voilà. Donc, je vous propose d'écouter cette nouvelle qui nous est lu par Philippe.
Absolument.
Je me souviens de Tennessee. Tennessee Williams meurt à 71 ans. C'est ainsi que le New York Times l'annonça en première page. Il s'était étouffé, révélait-on, avec un bouchon de plastique contenant des barbituriques. De façon incroyable, il avait avalé le bouchon avec les cachets et s'était étranglé. Cela s'était passé à l'Élysée, un curieux petit hôtel situé autour de la 50e rue Est. En fait, Tennessee possédait un appartement à New York, mais lorsqu'il se trouvait en ville, il descendait toujours à l'Élysée. Son appartement, un petit enchevêtrement de pièces à peine meublées commodément, situé sur la 42e rue Ouest, était réservé à l'accueil de gentils inconnus. Voilà une fin étrange pour un homme obsédé par une idée de la mort plutôt poétique. Jeune homme, il était déjà persuadé qu'il mourrait le lendemain. C'est même sa sensibilité hypochondriaque sur ce sujet qui provoqua notre seule véritable dispute. À l'époque, l'une de ses pièces, fumée, était en répétition. Nous dînions ensemble, et pour l'amuser, croyais-je, j'entrepris de lui rapporter les propos des comédiens sur le metteur en scène de la pièce, une femme originaire du Texas. Apparemment, lors de chaque répétition, elle rassemblait la troupe et enjoignait à chacun de faire des efforts, de travailler très dur, parce que cette fleur de génie est la dernière de Taine, il est en train de mourir. Oui, c'est un homme condamné qui n'a plus que quelques mois à vivre. Il me l'a dit lui-même. Bien sûr, il passe son temps à annoncer qu'il va mourir, mais cette fois, j'ai bien peur que ce ne soit vrai. Même son agent en est persuadé. Au lieu d'amuser mon vieil ami, cette anecdote le rendit fou furieux. Il commença par briser les verres et les assiettes, puis renversa la table avant de quitter dignement le restaurant en me laissant stupéfait avec la facture à régler. J'avais 16 ans quand je l'ai rencontré. Il en avait 13 de plus que moi, travaillait comme garçon au Greenwich Village Café et voulait être dramaturge. Nous sommes devenus de grands amis, une amitié purement intellectuelle. En fait, même si inévitablement les gens étaient sûrs du contraire. À cette époque, il avait l'habitude de me donner à lire toutes ses pièces en un acte et nous les jouions ensemble. Petit à petit, au fil des ans, nous avons construit la ménagerie de verre et je tenais le rôle de la fille boiteuse. Du fait de sa tendance à passer de folles nuits à base de sexe et de gin, Tennessee, qui n'était pas un survivant né, n'aurait probablement pas dépassé l'âge de 40 ans si Frank Merlot n'avait pas été là. Frank était un marin que j'avais découvert pendant la guerre. Il n'était plus dans la Navy quand, environ 5 ans après notre rencontre, Tennessee nous surprit attablé dans un douillet petit restaurant italien. Je ne l'ai jamais vu aussi excité, ni avant, ni depuis. Il abandonna celle qui déjeunait avec lui, son agent Audrey Wood, et très vite, sans y être invité, vint s'asseoir à notre table. Je lui présentai mon ami et il ne s'écoula pas 2 minutes avant qu'il lance. « Voulez-vous dîner avec moi ce soir ?» Manifestement, l'invitation ne m'était pas adressée. Frank était gêné, il ne savait trop que dire. Je répondis à sa place. « Mais oui, oui, bien sûr qu'il veut bien dîner avec toi ce soir. » Et c'est ce qu'il fit. Ils restèrent ensemble 14 ans, et ces années furent les plus heureuses de la vie de Tennessee. Frank était pour lui un mari, un amant, un agent. Il était aussi très doué pour organiser des soirées, ce qui convenait parfaitement à Tennessee. En 1952, lorsque Yukio Mishima, le grand écrivain japonais, celui qui leva une armée privée, défia le commandement militaire du Japon et finit par se faire harakiri, effectua un séjour à New York, Tennessee informa Frank qu'il tenait à donner une soirée en l'honneur de Mishima. Frank réunit toutes les geishas qu'il put trouver entre New York et San Francisco et ne s'arrêta pas là. Il décida ensuite d'habiller en geisha une centaine de travestis. Je n'ai pas connu de soirée plus fantastique de toute ma vie. Tennessee lui-même s'habilla en geisha et ils roulèrent en voiture dans Central Park jusqu'à l'aube en buvant du champagne. C'était le premier échantillon de la vie en Occident pour Mishima et il déclara « Je ne retournerai jamais au Japon ». Quand Frank mourut du cancer en 1962, Tennessee mourut un peu lui aussi. Je ne me souviens que trop bien des derniers instants de la vie de Frank. Il les passa dans une chambre d'hôpital de New York où des flots d'amis entraient et sortaient. Finalement, un médecin sévère chassa tous les visiteurs, y compris Tennessee. Mais il refusa de partir. Agenouillé près du lit de fer étroit, il tenait la main de Frank et la pressait contre sa joue. Imperturbable, le docteur le pria de s'en aller. Mais Frank chuchota soudain. « Non, qu'il reste, ça ne peut pas me faire de mal. Je suis habitué à lui après tout. » Le médecin soupira et les laissa seuls. Ensuite, Tennessee ne fut plus jamais le même. Il avait toujours beaucoup bu, mais il commença à mélanger les drogues et l'alcool. Il fréquentait également des gens très bizarres. Je crois qu'il passa tout seul les 20 dernières années de sa vie avec le fantôme de Frank. Mais à présent, quand je me souviens de Tennessee, je pense au bon moment, au moment drôle. C'était un homme qui, malgré sa tristesse intérieure, ne cessait jamais de rire. Il avait un rire remarquable, ni gras, ni vulgaire, ni même particulièrement sonore. Un surprenant rire de gorge, fleurant les bateaux à aubes du Mississippi. On savait toujours si Tennessee était ou non dans une pièce, quel que soit le nombre de personnes présentes. Quant à son sens de l'humour, normalement il était plutôt grinçant. Mais quand il était furieux, il semblait hésiter entre deux genres. Soit un humour très morbide, n'arrêtant pas de ricaner pendant les déjeuners composés de 5 martini gin qui étaient sa spécialité, soit une profonde amertume sur son propre compte, celui de son père ou de sa famille. Son père ne le comprit jamais. Sa famille semblait le tenir responsable de la folie de sa sœur et Tennessee lui-même, je crois, n'était pas très sûr de sa santé mentale. On lisait tout cela dans ses yeux qui changeaient sans cesse, comme, dans les foires, une grande roue d'amusement et de tristesse. Cela ne signifie pas qu'on ne s'amusait pas avec lui. Nous avions l'habitude d'aller au cinéma ensemble, et j'ai bien l'impression que, de toute ma vie, c'est avec lui qu'on m'a le plus souvent vidé des cinémas. Tennessee se mettait toujours à réciter des poèmes, à se moquer, à imiter Joan Crawford. Il ne fallait pas longtemps au directeur de la salle pour venir nous expulser. Mon souvenir le plus drôle, pourtant, date de 4 ou 5 ans, lors d'un séjour à Key West avec Tennessee. Nous nous trouvions dans un bar terriblement peuplé. Il y avait bien 300 personnes là-dedans, homo et hétéro. Un couple marié était installé à une petite table, tous les deux passablement ivres. La dame, qui portait un pantalon et un bain de soleil, s'approcha de notre table, un crayon à sourcils à la main. Elle voulait mon autographe autour de son nombril. J'éclatais de rire et lui dis « Mais non, laissez-moi tranquille !»« Comment peux-tu être aussi cruel ?» me demanda Tennessee, qui, sous le regard des clients, prit le crayon et apposa ma signature sur le ventre de la dame. Son mari était furieux lorsqu'elle regagna leur table. Sans nous laisser le temps de dire « ouf », il lui arracha le crayon des mains, puis se leva, se plantant devant nous, ouvrit sa braguette, sortit sa queue et lança en s'adressant à moi « Puisque vous mettez votre signature partout aujourd'hui, pourquoi ne pas signer ça ?» Je n'avais jamais entendu un tel silence dans un bar où s'entassaient 300 personnes. Je ne savais que faire. Je me suis contenté de le regarder. Alors, Tennessee a tendu le bras et a pris le crayon des mains de l'inconnu. « Je ne sais pas si Truman aura assez de place pour signer, » dit-il en m'adressant un clin d'œil, « mais je peux toujours y mettre mes initiales. » Et le bar croula sous les applaudissements. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quelques semaines avant sa mort. Nous dînions dans un endroit très fermé qui s'appelle le club, et Tennessee était en parfaite forme physique, mais triste. Il affirmait qu'il n'avait plus d'amis, que j'étais l'un des seuls à le connaître vraiment. Il aurait voulu que nous soyons aussi proches que naguère. Pendant qu'il parlait et que les flammes dansaient dans la cheminée, je songeais qu'en effet, je le connaissais bien. Et je me souvins d'une soirée à de nombreuses années de là, au cours de laquelle j'en avais eu conscience pour la première fois. C'était en 1947, lors de la première de « Un tramway nous met désir », un événement obsédant et éblouissant. Tandis que les lumières baissaient pour l'ultime réplique, et que, tendant le bras dans l'obscurité vers les mains secourables d'une infirmière et d'un docteur, Blanche Dubois chuchotait « Qui que vous soyez, j'ai toujours été à la merci d'inconnus. » Un silence saisissant figea les spectateurs. La terreur et la beauté et avaient arrêté les battements de leur cœur. Une fois le rideau tombé, le silence persista longtemps. Ensuite, des ballons semblèrent exploser en cascade. La splendeur des applaudissements, le fait capital que le public se lève, furent aussi soudains et stupéfiants qu'un cyclone. Les vedettes, Jessica Tandy et Marlon Brando, eurent droit à 16 rappels avant que le public ne réclame « L'auteur, l'auteur !» Difficile de l'entraîner sur la scène, le jeune Mr. Williams, rougissant comme si pour la première fois des inconnus l'embrassaient. À dire vrai, il n'avait pas fait de folie pour la première de sa pièce. L'argent lui inspirait une crainte redoutable, si sévère, que, même pour une telle occasion, il n'avait pu se résoudre à acheter un costume neuf. Et il portait un complet bleu marine que bien des banquettes de métro avaient lustré. Son nœud de cravate était desserré, et l'un des boutons de sa chemise pendillait. Il était pourtant séduisant, petit mais soigné, robuste, les joues rouges de santé. Il leva ses mains courtaudes de laboureur et apaisa l'extase le temps de déclarer. « Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup !» avec un accent du sud aussi lent que le Mississippi dont les eaux auraient été polluées par du gin. On avait l'impression qu'il éprouvait de la joie, pas du bonheur. la joie a la brièveté de la cocaïne, alors que le bonheur possède au moins une longueur un peu plus durable. Tennessee était un homme malheureux, même quand il souriait sans cesse et riait aux éclats. Et la vérité, en tout cas pour moi, c'est que Blanche et son créateur étaient interchangeables. Ils partageaient la même sensibilité, la même insécurité, les mêmes désirs charnels mélancoliques. Et brusquement, en pensant des choses de ce genre et en le regardant s'incliner devant la clameur assourdissante, on croyait le voir disparaître sur la scène, s'évanouir à travers le rideau, entraîné par le médecin qui avait conduit Blanche Dubois vers d'indésirables ténèbres.
Et voilà, un beau portrait de
Tennessee.
Tennessee Williams. Alors, bah on dit souvent hein, de Truman Capote qu'il était le Cocteau des États-Unis, hein, parce qu'il était doué, charmant, frivole.
Fantasque,
voilà. Et on l'a donc aussi qualifié hein, de caméléon littéraire. Alors, c'est vrai qu'il a écrit dans des styles très différents, parce qu'il a fait des grands romans, il a fait beaucoup de nouvelles.
Mais il a tout abordé.
Hein. Il a fait des essais, ses impressions, là, par exemple. Il y a des impressions de voyage aussi, où il parle de ses croisières, de.
Très voilà, multicarte.
Voilà. Mais le tout, voilà, dans un style assez enlevé, quand même, quoi.
Enfin, oui, il écrit bien, hein.
Et malheureusement pour lui, la publication dans Esquire, ou Esquire, je ne sais pas comment on dit.
Esquire, oui, c'est un magazine Esquire, mensuel voilà. Pour hommes
voilà,
aux États-Unis.
En octobre 1975, d'un chapitre du roman auquel il travaille, va précipiter la catastrophe.
Aïe.
Alors, donc la côte basque, écrite en 1965, donc c'est d'un livre qui s'appelle Prière exaucée, pardon, voilà. Donc c'est le troisième chapitre. Et quand même, c'est des écrits assez brillants,
outranciers,
voilà, qui vont s'y substituer. Qui substitueront de l'œuvre annoncée, parce qu'a priori, il en avait écrit plus, mais on a retrouvé que ces trois,
oui, inachevé,
trois chapitres-là, voilà. Et voilà, alors, c'est s'inspire de façon un peu trop évidente et blessante, surtout, de la relation douloureuse entre deux de ses amis, William et Beb Paley. Donc, cela va valoir au romancier d'être
irrémédiablement.
Merci, voilà, tu mets d'un grand secours.
Ostracisé.
Voilà, par là. Société new-yorkaise et il fuit pas presque tous ses proches. Hein. Du coup, tout le monde va lui tourner le dos. Bah, c'est vrai qu'il.
Il y va franco, il nomme les gens. Donc...
Voilà, il nomme les gens, il dit des choses très crûment.
De petites choses qui se passent dans toute cette petite société new-yorkaise.
Donc, c'est pas apprécié de tout le monde. Donc, ce roman, donc Prière exaucée, qui devait être son chef-d'œuvre, restera finalement inachevé et ne sera publié que de façon posthume en 87, avec une préface explicative de son éditeur, Joseph Fox.
Ben oui, ça a dû être un peu d'insatisfaction pour lui, quoi, quand même.
Alors, entre-temps, Truman Capote fait paraître en 77, donc 10 ans avant, un dernier livre de son vivant, qui s'intitule Musique pour caméléon, qui est un recueil d'articles et de nouvelles, quoi. Il y a pas mal de choses dedans. Mais en fait, à la suite de deux mauvaises chutes consécutives, Truman est soigné pour une phlébite. Il va décéder à Bel Air, un beau quartier de Los Angeles, en 1984, d'une surdose médicamenteuse associée à un cancer du foie et à un affaiblissement général de sa santé depuis sa phlébite.
Ouh là là.
Voilà, et donc il va être inhumé au Westwood Village Memorial Park Cemetery à Los Angeles.
Ah oui, c'est vrai que c'est une drôle de personnalité hein, au travers de ce que tu viens d'en dire. Bon, moi je repense à l'enfance qu'il a eue, où bah, ça a été très dur parce qu'il avait une mère instable, un père en prison, tu l'as dit, un autre beau-père qui lui a donné son nom. Il a changé de nom, il a été ballotté, Il était souvent seul la nuit, abandonné dans des chambres d'hôtel. Donc toute sa vie, apparemment, il a répété un petit peu qu'il avait la notion d'abandon, un peu vissé au cœur.
Voilà, d'angoisse.
Ce qui explique un peu les côtés provocateurs. Et donc, moi, je notais qu'à la fin de sa vie, il passait ses nuits apparemment à errer avec Andy Warhol. Et j'ai une petite citation qui le résume quand même un peu. Il dit « Qu'est-ce que la vie ? C'est le scintillement d'une luciole dans la nuit. C'est le souffle d'un buffle en hiver. C'est comme la petite ombre qui traverse les champs et va se perdre dans le coucher du soleil. » C'est extrait de son froid, ça. Mais on voit bien le côté fulgurant du personnage. Là, un peu une comète.
qui passe, un peu incomprise parfois.
Il y a de ça, hein.
Donc enfin, il a quand même laissé une belle œuvre littéraire derrière lui. Oui. Donc il y a des films qui ont été inspirés par ses livres.
Oui, quand même. Succès,
et
beaucoup.
Puis,
hein.
Et puis qui ont été inspirés par sa vie aussi, hein, parce qu'il y a eu au moins 2-3 films de fait
sur lui. Sur lui, voilà. Oui, oui. Bah, une vie quand même riche, entre guillemets, quoi. De rebondissements.
Voilà. Donc, on vous conseille fortement, voilà, de lire du Truman Capote. Alors, on vous avait préparé aussi un petit extrait, justement, de cette côte basque, mais on va pas avoir le temps, là, vu voilà, qu'on arrive déjà à la fin de l'émission.
Le temps file.
Voilà. Hein, mais bon, on vous conseille de pouvoir lire tout ça.
Alors, évidemment, un peu de Truman.
Voilà. Et puis, parce que c'est vrai qu'en même temps, dans ces lectures, pour ceux qui aiment bien la littérature américaine et tout ça, bah, ça parle beaucoup voilà, des autres écrivains de la même époque.
Oui, de l'ambiance de New York.
Tous les artistes, voilà. Et donc, du coup, ça...
Le New York bohème.
Ça donne une image, voilà, du New York des années 50, 60.
Toute une époque.
Toute une époque, voilà. Bon, eh bien, on vous remercie de nous avoir écoutés, même si parfois, dans les nouvelles qu'on vous lit, elles ne sont pas forcément d'une diction irréprochable, mais
on fait ce qu'on peut. Hein.
On essaie de faire notre mieux, voilà. Donc, à très bientôt Un auteur, une nouvelle.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.